on a le plaisir de recevoir Mathieu Durieux du Petit Faucheux à l'occasion du Festival Superflu qui revient pour une 12e édition du 4 au 6 avril. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Campus.
Et donc ce Festival Superflu, c'est un rendez-vous annuel à la rencontre de musique surprenante, expérimentale. Qu'est-ce qu'il cherche à transmettre au public ?
Qu'est-ce qu'il cherche à transmettre au public ? De passer un bon moment, déjà. On a souvent dans les festivals là, des musiques qui se chantent, qui se dansent. Nous, on propose des expériences un peu sensorielles. Il n'y aura pas forcément des couplets, des refrains dans les morceaux et les musiques qu'on va entendre à Superflu, mais on va essayer de proposer des émotions et des sensations, parfois même physiques, au public. Donc, avec des musiques qui sortent un peu des codes habituels, qui sont très bien aussi, hein, qu'on adore, mais voilà, on essaie de proposer une autre approche un peu de l'expérience musicale et de l'expérience auditive et sonore dans ce festival.
Alors, je suis avec Thomas et Pali qui ont joué tout à l'heure à 16h à MAM une performance qui se nomme Melt. Qu'est-ce que c'est en fait ?
Oui, on peut dire performance, qui est un mot très pratique. C'est vrai que nous, on est dans des espaces de la musique où des fois on dit plutôt art sonore que musique parce que ça évite d'avoir des longues conversations pour expliquer pourquoi c'est de la musique. Parce qu'on travaille avec des sons qui sont prélevés dans l'environnement, avec un travail de prise de son. En l'occurrence, la performance Melt, c'est un travail sur les glaciers. Sur les glaciers en train de disparaître des Alpes, sur lesquels on a fait des enregistrements avec différentes techniques, différentes technologies. Et du coup, cette performance, c'est une recherche électroacoustique et improvisée à partir de ces sons enregistrés, puis avec aussi de la glace qui fond sur des micros, sur scène.
Et comment est-ce que c'est né cette collaboration ? Est-ce que vous connaissiez tous les deux avant ?
Eh ben ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Pali m'ayant invité il y a longtemps sur une compilation dont il était le producteur, curateur on va dire. Donc on a toujours échangé.
2005, hein, pour les millennials.
Ouais, c'est
c'est ma date de naissance.
Voilà. Voilà, donc ce qui fait de nous des vieux en fait.
Mais
maintenant.
Non.
On a une pratique. On s'est toujours suivi en fait à distance, on se voyait sur des festivals, on est toujours resté en contact. On a un peu cette pratique du micro et de la captation de terrain en commun. Et puis tout un tas d'aspects au-delà des esthétiques et de la musique, mais beaucoup de choses politiques aussi en commun. Voilà. Et Pali m'a invité en 2020 ou 2021, je ne sais plus, pour travailler sur un premier projet qui s'appelle Radio Glace et qui était basé sur ces mêmes glaciers, avec une couleur plus documentaire. En fait, il s'agissait aussi bien de faire parler les gens qui ont une relation à ces glaciers que de faire écouter le glacier en lui-même, donc un projet entre la radio et l'électroacoustique. Radio Glace est en ligne sur le site radioglace.net, toutes les pièces sont écoutables à cet endroit-là. Et on a continué avec ce projet Melt en se concentrant, vraiment en faisant un focus sur les sons du glacier en lui-même sous la forme de cette performance. Voilà.
Et alors à un moment, il y a un glaçon qui est tombé et qui s'est un peu explosé. Est-ce que c'était prévu ?
Non, c'était pas prévu. Donc il y a des blocs de glace sur scène qui génèrent une petite partie du son qu'on entend et qu'on spatialise dans le système d'enceinte. Le reste, c'est des enregistrements de terrain La glace de glacier et la glace qu'on fait au frigo comme ça, elle est un petit peu différente. Dans la glace de glacier, il y a de l'air qui est captif et qu'on peut entendre au moment où ça fond. Donc ça fait partie de, c'est un des registres des choses qu'on a enregistrées sur le terrain. Ce qui se passe sur scène avec ces glaçons, c'est certains crépitements, écoulements. Et puis là, il y a eu un événement, il y a eu un glaçon qui a explosé. Et qui s'est effondré sur le micro, donc voilà, c'était le bienvenu finalement, puisque on travaille, c'est une performance qui travaille avec pas mal de dynamique, avec pas mal aussi de choses qui sont y compris, alors nos enregistrements maintenant on les connaît bien, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont imprévues dedans. Enfin voilà, on travaille avec l'environnement, on travaille avec des choses qui sont vivantes, organiques, donc on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Et typiquement un glacier, on peut en connaître la mécanique, savoir à peu près comment il bouge, comment la neige s'accumule et forme de la glace, comment ça bouge et ça fond avec la descente en altitude et l'été. Mais en même temps, il y a plein de choses complètement impossibles à prévoir qui se passent dedans, dont des effondrements et puis plein de petits phénomènes comme ça qui sont... Donc nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, et du coup, le fait que ça se passe en performance avec le petit dispositif, la petite mini maquette de glacier là, qu'on met en place avec ces quatre glaçons qui vont dans quatre haut-parleurs, tant mieux, quand il y a des choses qui nous surprennent nous-mêmes, ça nous donne envie de continuer à faire cette performance, parce qu'elle est complètement différente à chaque fois en fait.
Oui, à chaque fois, c'est jamais le même rendu. Est-ce que ça vous était déjà arrivé que le glaçon il casse aussi à d'autres moments ?
Oui, c'est déjà arrivé que le glaçon casse. Ce qui est très différent en fait d'une performance à l'autre, c'est surtout l'endroit dans lequel on joue, qui va avoir une acoustique différente, un système d'enceinte différent, etc. Et nous, on s'amuse beaucoup à réfléchir à comment on remplit cet espace dans l'espace et dans le temps, avec toutes ces matières qui nous sont familières, mais qui en même temps redécouvrent à chaque fois, quoi. Et puis, voilà, là, il y a eu un petit événement avec cet effondrement microscopique. Mais c'était tout à fait bienvenu, ouais.
Et alors, comment est-ce que vous répartissez les rôles ? En fait, qui fait quoi ? Enfin, parce que vous êtes tous les deux sur des ordinateurs, avec des sons. Comment on procède ? Comment on arrive à jouer ensemble, en fait ?
Eh bien, en fait, le seul vrai curseur qu'on a quand on joue, c'est la réponse du volume d'air. C'est pas d'attendre que l'autre fasse quelque chose, ou d'attendre des signaux, ou ce genre de choses. C'est de se plonger nous-mêmes dans l'écoute, en essayant, entre guillemets, d'oublier un peu de notre dispositif, de jouer un peu instinctivement en écoutant ce qui se passe dans le lieu de diffusion et en réagissant à ce que propose l'autre, et soit en retissant des choses, soit en cassant ce qui est fait, soit en avançant. Vraiment, c'est de la musique improvisée en fait, hein, tout simplement, comme un instrumentiste la pratiquerait. Évidemment, on a moins de marge de manœuvre qu'un instrumentiste, mais finalement, sur la réponse du lieu, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de timeline, il n'y a pas d'écriture à proprement dit de ce qui se joue. On se donne à peu près un temps, on sait qu'on joue autour de 45-50 minutes, on se dit rien pour commencer, on sait à peu près comment ça finit, c'est-à-dire qu'en général on termine sur des petites choses et on essaye de laisser les glaçons, enfin en tout cas de faire écouter les glaçons fondre et de proposer des choses très ténues. Mais on est vraiment dans une démarche de musique improvisée pure, voilà. Donc c'est un truc qui se travaille au fil du temps, au fil des lieux. Effectivement, comme disait Pali, on connaît nos enregistrements et on essaye de...
Ça a évolué dans les premiers concerts qu'on a fait. On en parlait avant, on se donnait un peu un canevas, on essayait de voir où on allait, on se faisait peut-être un peu plus de signes. Maintenant, on se connaît, on connaît les sons de l'autre, et c'est vrai qu'on arrive toujours à se surprendre. Moi, des fois, il y a des trucs, ah tiens, il fait ça, puisque c'est ça, j'y vais de ce côté-là, etc. Donc c'est une relation qui est très musicale, en fait, même si c'est des sons fixés, c'est des enregistrements qui passent par des ordinateurs, mais il y a vraiment un côté improvisé qui est très présent.
Et alors, est-ce que c'était votre première fois à Superflu ?
Alors, à Superflu, oui, tout à fait.
Avant le festival ou pas du tout ?
Je connaissais le Petit Faucheux, le festival Superflu, je crois que c'est pas un nom qui m'a surpris, mais j'y avais pas pensé depuis un moment.
Ouais, moi c'est pareil, je connais, enfin j'étais jamais venu sur le festival, j'ai déjà joué à Tours, au Petit Faucheux notamment. Mais oui, je connais les lieux impliqués, mais le festival, non, je le connaissais plus.
Et alors, est-ce que vous avez une base dans la musique ou pas du tout ?
Alors, ça dépend ce que ça veut dire. Moi, je dirais que j'ai une base dans la musique tout en ne sachant pas ni lire une partition ni jouer d'un instrument. Je crois que Thomas, c'est un petit peu pareil avec un parcours différent, mais on fait partie de ces musiciens qui viennent aussi un petit peu des arts plastiques et qui ont approché le son comme une matière plastique, quelque chose qu'on peut travailler, sculpter avec des micros, avec des processus électriques et électroniques. Du coup, ben, moi, je considère que je fais de la musique. Mais comme je disais au début, des fois, c'est plus pratique de parler d'art sonore, parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus inclusif, on va dire. Finalement, c'est peut-être pas tant le problème. Voilà, c'est en tout cas des choses qui passent par l'écoute, et la manière dont on met les gens dans certaines dispositions d'écoute et pour écouter quoi, c'est un peu de ce côté-là qu'on a envie de réfléchir.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes artiste ou musicien ?
Ouais, les deux. moi je me suis toujours défini comme musicien. J'ai toujours posé ce que je pouvais faire du côté de la musique. La notion d'art sonore, effectivement, elle est pratique quand t'as envie de discuter avec les gens. C'est artiste sonore, et puis tout rentre dedans. C'est ça, quand tu prononces le mot de musique, tu rentres tout de suite dans un déroulé qui impose certaines justifications et des discussions des fois assez profondes sur à partir de quand c'est musique, à partir de quand ça ne l'est pas. En tout cas, moi, la question de l'idée d'une musique expérimentale me tient toujours à cœur aujourd'hui. Je pense qu'elle a toujours du sens, en fait. Avec, effectivement, tout ce que ça peut dérouler de technique, de relation à l'écoute. En fait, l'écoute, c'est vraiment premier dans tout ça. C'est-à-dire que, finalement, le dispositif, les outils, on adore ça, mais on s'en fout un peu, au final. La question, c'est d'écouter et de faire écouter. Et de propulser les gens dans un état qui est, oui, un état d'écoute et de convoquer un auditoire pour un temps donné, ce qui est quand même le propre d'une représentation en musique, quelle qu'elle soit. Après, la question esthétique, effectivement, c'est un long débat, mais je pense que l'idée absolue de la musique comme quelque chose de mélodique, harmonique, tempéré, à la sauce occidentale, comme on l'a toujours entendu et vendu, bon, elle n'a jamais été absolue en soi, elle l'est encore moins aujourd'hui avec tout ce qu'on peut, tous les accès qu'on a à plein de musiques et des fois très anciennes et de coins du monde extrêmement lointains et loin de nous. Et aussi avec l'histoire de la musique électronique et la démocratisation des outils électroniques qui fait que...
Ce que j'ai trouvé fort quand même dans ce que vous avez produit, c'est vraiment le message qu'on comprend tout de suite, la fonte des glaces. Est-ce que c'est un peu une vision prochaine de notre monde, une vision un peu apocalyptique, on va dire ça comme ça. Parce que moi, en tout cas, j'ai eu des émotions assez sombres quand j'ai vu...
Alors, bon, évidemment, c'est tous les projets qu'on a faits sur les glaciers, ils sont liés aussi à ces circonstances climatiques dans lesquelles on vit aujourd'hui. Pour autant, et on l'a rappelé dans le disque... qui est lié à ce projet qui a été publié, ce qu'on entend n'est pas la bande-son du réchauffement climatique. Parce qu'un glacier, c'est fait pour fondre. Un glacier, c'est une accumulation de neige qui se transforme en glace, qui coule long des pentes des montagnes et qui arrive dans des zones plus chaudes où ça va finir par fondre. Il y a 100 ans, les glaciers étaient beaucoup plus grands, mais ils fonctionnaient de la même manière. Alors les étés étaient peut-être un peu plus courts, les altitudes étaient plus basses pour entendre ces bruits de fonte, mais ils existaient exactement de la même manière. Donc il ne faut pas se méprendre. Nous, on a tout un pan de notre travail qui se construit en relation avec la science et avec les glaciologues. Et en tout cas, c'est pas le son ne vient jamais prouver des phénomènes climatiques. Par contre, ils viennent informer l'écoute, ils viennent mettre dans certaines dispositions. Et nous, on part du principe que l'audio, l'écoute ne fait jamais preuve de ces choses-là. Par contre, l'écoute n'est jamais neutre et on n'entend pas quelque chose. Voilà, au pire, on entend un disque de musique abstraite, on a même une image de la pochette du disque ou une vignette sur Spotify. Donc en fait, on n'écoute jamais, l'écoute pure n'existe pas. Mais par contre, du coup, l'écoute informée, ça existe, et l'écoute articulée avec un contexte, avec des circonstances climatiques ou culturelles, etc. C'est important. On est en train de construire des projets dans certains contextes, à partir de certains sujets, sur certains terrains, etc. On essaye de tenir compte de tout ça et de ne pas tomber dans l'idée que tout est échantillonnable et qu'on fait ce qu'on veut avec notre inspiration. C'est pas du tout notre pratique. Nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des scientifiques, c'est pour ça qu'on travaille sur des terrains un petit peu spécifiques, et on essaie de comprendre les enjeux qui sont liés à ça. Donc oui, c'est un projet qui parle du réchauffement climatique, il ne le démontre pas, mais il se construit à l'intérieur de ces circonstances-là, les émotions ou les informations qui en ressortent ou qui sont reliées font partie de l'époque et du contexte.
D'accord, et ben merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions et encore merci pour votre performance. Thank you.